Bonjour, tout le monde. J'ajoute mes collègues à la diffusion. Bonjour, Hugues Léger. Bonjour, Nicolas Richard. Bonjour, Abraham Santerre. Salut, les gars. Très content de vous retrouver pour cet épisode extraordinaire pendant que moi, je suis encore en vacances. Nico, lui, c'est tout le contraire. A travaillé plus que jamais parce que tu es maintenant un membre de la presse. On en reparlera lundi un peu plus longuement, les gars. On prendra nos nouvelles un peu plus longuement lundi dans notre première édition de la saison 3. Déjà la saison 3 du podcast. Mais aujourd'hui, ben, on a décidé de faire une émission spéciale. Elle n'était pas prévue. On a décidé ça à la dernière minute. En fait, Hugues, il nous a poussé dans le derrière pour qu'on fasse une émission spéciale et c'était très justifié. Et puis, on accueille Abraham qui fait une bonne partie de nos médias sociaux aussi et ben, qui suit le tennis autant, sinon plus que nous par bout. Ben, bienvenue, messieurs. Comment allez-vous? Je commence avec toi, Hugues.
Très, très bien. Écoute, on se retrouve avec une reprise de la finale de Coupe Davis de 2019 avec l'ATP Cup. Là, c'est pas mal excitant ce qui se passe en ce moment. Beaucoup, beaucoup d'actualités de tennis. Donc, on commence l'année sur les chapeaux de roue. J'ai hâte de vous parler lundi, mais aujourd'hui, concentrons-nous sur cette belle victoire de cette nuit contre la Russie et la finale qui se prépare contre l'Espagne en ATP Cup.
Oui, parce que je peux vous dire que moi et Abraham, on l'a fait la ronde de lait hier. On s'est couché à 4 heures du matin. On a publié, j'ai tweeté à 4 heures du matin. Nicolas, on comprend, là, t'es sur un beat de jour, Hugues, même chose, là. Je sais pas, Nick, t'as-tu fait la ronde de lait jusqu'à 4 heures
J'étais
du
là,
matin?
je sais pas pourquoi tu m'exclus du.
T'es-tu sérieux, t'étais là?
J'étais pas dans la conversation parce que
Non, ça, c'est vrai parce que tu.
j'étais ailleurs, mais je le regardais. Il y avait du tennis, du ski. On manque pas ça, là. On a une vie à
Ouais, mais
vivre.
attends. Attends, toi, t'es plus du genre à te lever à 4 heures du matin que de te
Oui,
coucher à
non,
4 heures
non,
du
j'ai
matin.
fait. Moi, je me suis couché entre 11h et 11h15, belle petite nuit de sommeil, je me suis réveillé plus tard, puis après, j'ai regardé le tennis et puis le ski.
Est-ce que t'as dit nuit de sommeil entre 11 puis 11 et 15?
Sieste, le temps, toi, pour notre live, peut-être un petit repos, petit soupe au poids, puis on repart pour un petit courrier de ski.
Ah, Colin, Nico, je suis content de te retrouver, je suis content de te parler parce que je peux vous dire que Nico, il n'est pas beaucoup joignable ces
C'est
temps-ci.
rare en plus. D'habitude, je suis assez réactif, là, mais là.
Ça dépend. Au téléphone, tu réponds pas tant que ça quand même.
Il est tout le temps fermé, en fait.
Ah, c'est ça, hein? C'est ça. Il est
Sage.
tellement
Très,
populaire.
très sage. Très, très sage, Nicolas Richard. Il garde le contrôle sur sa vie, c'est bien.
Ah, je suis vraiment content de voir les boys. Puis écoutez, j'étais content de réécouter du tennis hier. C'était vraiment la première fois depuis le début de la saison que je réécoutais du tennis en direct de façon assez, comment dire, précise, là, parce que, bon, comme je le disais, moi, j'étais en vacances, j'ai regardé plus de faits saillants. J'essaie quand même de couper ça un peu. Mais hier, j'étais content de retrouver mon chapeau Valeuf. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire l'analyse de ce qui s'est passé hier dans la demi-finale. On va revenir sur ces matchs-là. Et évidemment, on va regarder ce qui va se passer du côté de la finale qui va se jouer un peu plus tard ce soir. Alors, ben, messieurs, sautons dans le vif du sujet, comme je le dis tout le temps. Abraham, je commence avec toi, OK? Parce que tu étais là avec moi hier, ben Nico aussi, mais il ne nous l'a juste pas dit.
Je pense pas.
ton impression générale sur ce qui s'est passé hier, c'est quoi exactement?
C'est une grande rencontre. C'était pas facile. En fait, ça n'a pas été gagné. Moi, sincèrement, pendant la rencontre, je pensais pas qu'on allait remporter à cause de Medvedev qui a mis son jeu sur la table puis il a ébranlé Félix, littéralement. On était capable de revenir, puis ça a été incroyable. Moi, en train de fermer les yeux aux 2 secondes, en train de m'endormir, puis en train d'écouter le match, j'ai vraiment aimé ça.
Ouais, ça a été un bon spectacle, particulièrement, je dirais, le match de double parce qu'il avait tellement de signification. Nico, qui a écouté le match je complet, impression générale de cette confrontation-là hier?
Mon bilan, et c'est un peu une leçon de vie, il n'y a rien de plus fort que l'amitié, messieurs. Parce que hier, Félix et Denis, non, mais pas de farce, là. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est la chimie entre Denis
Ouais.
et Félix. On l'a vu, Medvedev et Saliouine ne sont pas habitués ensemble, puis ça paraissait.
C'est
Hier,
vrai.
dans la fin du dernier set, c'est là que ça s'est joué. La complicité entre les deux Canadiens, c'était de toute beauté. Puis ce qui est le fun, les gars, c'est qu'on va les revoir pendant 5, 10, 15 ans. Ils n'ont que 20 ans. C'est absolument phénoménal ce qu'on fait hier soir. Puis chapeau aux deux amis qui continuent
Ah ouais.
d'impressionner tout le monde.
On en reparlera dans l'analyse, mais c'est qu'ils ont joué beaucoup de doubles ensemble que chez les juniors. Ils ont gagné la Coupe Davis junior ensemble. Commentaire général sur ce qui s'est passé hier?
Oui, ben écoute, moi j'ai tout réécouté très très tôt ce matin en reprise sur ATP Tennis TV. Donc je remercie le service de streaming de l'ATP qui est toujours disponible pour nous. Et je retiens un peu la même chose que Nico. Dans le discours d'après-match de Dennis, il a parlé beaucoup justement de chimie, de confiance, d'amitié. Puis effectivement, cette chimie en double, cette confiance qui s'établit en deux joueurs est primordiale pour aller chercher des matchs serrés. 17 dans le pro tie-break du troisième set, c'est une fin dramatique. Et la drop shot que Shapovalov a fait pour gagner le match était juste spectaculaire. Donc, ça a été une fin vraiment, vraiment impressionnante. Et ce qui m'a impressionné de Shapovalov durant toute cette demi-finale, c'est son caractère, justement, parce que il y a eu un match extrêmement difficile contre ce nouveau Russe qui sort de nulle part, Safiulin.
Un autre.
160e mondial. Est-ce que c'est une nouvelle histoire Karatsev qui est en train de se mettre en place? Écoute, 6-4, 5-7, 6-4. Il y a eu 6 balles de break à 2-1 dans le troisième contre lui. Il a réussi à gagner ce quatrième jeu du troisième set pour finalement remporter le match. Shapovalov connaît toute une ATP Cup en ce moment. Et on bat la Russie un peu affaiblie, sans Rublev, sans Karatsev, mais quand même une équipe extrêmement compliquée à jouer. Je suis vraiment impressionné de l'équipe canadienne en ce moment.
Oui, exactement. Et là, je vois, il y a des commentaires qui commencent à rentrer. J'invite les gens à commenter avec nous, si vous voulez. On est en direct pour ça, pour discuter avec vous. Tellement content de la victoire des Canadiens. Quel revirement de situation dans le match de double. Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y a eu tout un revirement de situation. Et moi, ce que j'ai aimé de la soirée d'hier, c'est qu'on a passé... Tu sais, ça a été comme un roller coaster d'émotions là, quand ouais. On est fan. Parce que bon, on se disait, Shapovalov, il a certainement ses chances contre Safiulin. On se disait, ben, il est favori. Mais en même temps, bon, Safiulin, on le connaît pas. C'est un gars qui a gagné chez les juniors. Hein. Il a gagné l'Australian Open chez les juniors, ce gars-là.
En 2015. Alors, en 2015, ça fait un petit bout de temps.
Ouais, ça fait un petit bout de temps, mais tu sais, t'en as des late bloomers comme ça. On parlait de Karatsev. Moi, l'histoire et les commentateurs hier du réseau de diffusion faisaient beaucoup référence à Karatsev et c'est une histoire qui peut-être va se ressembler étrangement. On verra qu'est-ce que ça va donner dans les résultats. Énervons-nous pas trop. Mais Shapovalov disait qu'il le connaissait un peu, hein, quand même, que c'était un joueur qu'il connaissait, qu'il savait qu'il était potentiel et qu'il aurait dû être de la façon dont il a joué hier, top 50, peut-être même top 20. Ouais. Bon, est-ce qu'il a voulu flatter dans le dos de son adversaire? C'est une chose.
Il a vraiment bien joué. Il a vraiment bien joué, Safiulin.
Il a bien joué. Personne, je pense, s'attendait vraiment à ce que ça aille en 3-7 et que ce soit compliqué que ça. Et une chose qui s'est sortie du trouble, Shapovalov, dans le long jeu, c'était à 2-1, oui. Le jeu qui a été très long, là, il s'est sorti du trouble, et là, après ça, c'est comme il a dit, OK, parfait, j'ai le match en main, et il a effectivement pris le match en main, et il a terminé la rencontre en beauté. Et pour ce qui est du match entre Félix et Medvedev, commentaire général, Abraham?
Ben, en gros, ça a été un match hyper intéressant pour Félix jusqu'à 4-4 dans la première manche. Après ça, ça a été 9 jeux de suite pour Medvedev, je pense. Félix, au début, il donnait confiance. Moi, j'avais l'impression qu'il pouvait aller la chercher. Il y a eu des balles de bris, si je ne me trompe pas. Puis, rendu à 4-3, Medvedev a fait 4-4. Et là, la machine a tourné de bord. Et ça a été difficile à regarder.
Ouais, ben, tu sais, Medvedev, il est le meilleur joueur au monde présentement, ouais, là. Faut pas oublier ça. Il est même une coche loin de tout le monde. Il est champion en titre du US Open. Il a connu une fin de saison phénoménale. On a beau dire Djokovic est numéro un mondial, mais moi, en ce moment, si tu me demandes de prendre un seul joueur, c'est Medvedev. Oui.
Surtout sur surface dure. C'est une surface qui lui convient très bien à l'ATP Cup. Et vous remarquez qu'il y a un dégagement à l'arrière du terrain qui est très profond. Et ça lui plaît aussi. Vous avez vu, il recevait à 20 pieds de la ligne. Là. Il va aussi loin qu'il peut derrière. Donc, vraiment, vraiment, c'était du Medvedev classique hier. Un premier set serré. Il trouve une solution tactique, il passe en septième vitesse, et il était d'une précision. Moi, ce qui m'impressionne avec Medvedev, au-delà de sa grande intelligence de jeu et de ses forces tactiques, c'est qu'il a une précision dans ses coups qui est inégalée, je pense, sur le circuit en ce moment.
Et en fond de terrain, il est tout simplement imbattable. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'il est régulier en fond de terrain. Jeff Fortin ajoute à la conversation en disant « Oubliez pas, messieurs, que Safiulin a été blessé. » Et c'est bon vrai, point. Ils en ont parlé hier. Medvedev bon également point. L'a précisé que c'est un gars qu'il y a eu des blessures. Et ben, ça peut faire un grand changement en début de carrière. Là, on connaît ça, des blessures ici au Canada. Donc, il ne faut pas l'oublier, effectivement. Peut-être que ce sera un joueur à surveiller cette année. Qui sait,
bon point, Jeff. On verra. Merci, ouais, Jeff, exact, pour le point.
Oui. Bien joué, et pas de skills qui ajoutent. Medvedev est tellement loin de la ligne de fond, bon, il ramène tout, c'est exactement ce que je disais.
Avec ses les tentacules.
C'est pour ça qu'on l'appelle la pieuvre sur le circuit.
Exactement. T'sais, est-ce qu'il va falloir commencer à dire que la meilleure défense sur le circuit, ce n'est plus Djokovic, mais Medvedev? Il va falloir commencer à y penser, parce que c'est incroyable. Abraham, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben là, il faudrait revoir Djokovic jouer pour établir ça.
Mais ça t'arrive, il faut
ça va être compliqué dans les prochains jours.
Organisons un tournoi en Serbie, on en reparlera éventuellement. Nicolas Richard, un commentaire sur le match de Félix?
Ouais, je pense que, puis j'ai pas envie d'être trop technique, mais je pense que ça s'est beaucoup joué sur les deuxièmes balles de Félix. J'ai pas la stats devant moi, mais je sais que ça n'a pas été extrêmement bon pour Félix, puis... Vous le savez, les gars, on ne peut pas donner une balle lente à Medvedev. Puis hier, plus ça allait, plus Félix, surtout dans le deuxième set, avait moins confiance en sa deuxième balle, donnait des balles ultra lentes, sans effet. Puis Medvedev, lui, est mort de rire. Là. Lui, il attaque ça. Puis comme Hugues le dit, ultra précis. Je pense que ça s'est beaucoup joué là. Après, c'est évident qu'on ne sera pas de cachette, les gars. Medvedev, deuxième joueur mondial, probablement le meilleur sur la planète. Il peut battre n'importe qui. Félix le savait. On le savait. Puis je pense que Félix aussi... Sachant, puis c'est une pure théorie, là, mais sachant que le deuxième set lui échappait, je ne sais pas si c'est un peu retenu pour ne pas se brûler, pas s'épuiser pour le double qui s'en venait. Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais clairement, il y a eu une baisse de régime au deuxième set. Je ne sais pas si ça lui a traversé l'esprit de conserver ses forces pour le match ultime en double contre Medvedev encore. Mais clairement, la deuxième manche n'a pas été à l'avantage de Félix, loin de là. Mais le premier set, vous l'avez dit, vraiment très serré. Puis si ce Félix-là peut rejouer comme ça, il peut battre à peu près n'importe qui. Si le Félix du premier set rejoue comme il a joué cette année, c'est incroyable.
Moi, je te dirais, honnêtement, je suis d'accord avec 90% de ton analyse. Je ne suis pas sûr qu'il s'est économisé pour le double. Je ne vois pas un joueur faire ça. Honnêtement, puis connaissant Félix, il veut gagner chaque point.
Je ne dis pas qu'il avait exprès de perdre, ce n'est pas ça que je dis, mais d'après moi, il s'est
inconsciemment,
peut-être. Dans certaines manières d'aller chercher les balles. Je ne sais pas.
C'est possible. Écoutez, c'est possible. En même temps, je pense que Medvedev, il est tellement une coche au-dessus de tout le monde présentement. Mais quand même, je ne sais pas si vous étiez comme moi, là, mais de la façon dont Félix joue depuis le début de la saison, avant le match, moi, je me disais, ça se peut qu'il gagne 9 balles de Medvedev.
Oui, j'y croyais.
Alors, et là, on va acheter une fois de plus. Podolski qui dit les mots presque en même temps que moi. Félix contre Zverev, c'est du top 10. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Il est tellement solide, Félix, depuis le début de la saison. Et puis, je me disais, il pouvait battre. Et comme Abraham l'a souligné, le début de match, je me disais, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'il batte Medvedev.
Il nous donnait des papillons dans le ventre.
Exact. Et Félix, on le sait, c'est presque un cliché, mais c'est encore plus important dans son cas. Si sa première balle fonctionne, il peut battre à peu près n'importe qui sur le circuit. L'année passée, c'est souvent quand la première balle ne fonctionnait pas. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des joueurs qui ont d'autres qui s'en sortent plus facilement. Félix, lui, si son service fonctionne, il peut battre à peu près n'importe qui. Alors, je pense qu'il peut quand même dire mission accomplie contre Medvedev, parce que je pense que, malgré que Medvedev ait connu des débuts de l'ATP Cup chambranlant, il a quand même pris son rythme assez rapidement, Medvedev. Match le plus intéressant, à mon avis. Avant qu'on passe au match, Jeff Fortin vient de faire un commentaire. Jim Courier, hier à TSN, disait que Félix n'est pas... Il est très bon d'abord, Jim Courier, je peux-tu le souligner? Hier à TSN, disait que Félix n'est pas capable de faire un service brossé-kick. donc, à plat ou coupé seulement, et Medvedev s'est adapté rapidement sur son service. Oui. Jeff Fortin, vous allez pouvoir devenir analyste sur le podcast sur la ligne. c'est une analyse très développée. Hugues et Nico, qui connaissaient un peu plus de techniques de tennis, répondaient à Jeff Fortin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Jim Courier a dit?
C'est à peu près ce que je disais tantôt. C'est parce que le but du kick au tennis, c'est de prendre la balle derrière pour lui donner un effet. Puis on va la chercher très, très, très loin en arrière pour pouvoir donner un effet à la balle. Lorsqu'elle touche au sol, elle kick. Puis ça, Félix a de la difficulté avec ça. C'est très, très rare qu'on voit aller chercher. Nadal le fait très, très bien. Par ailleurs, là, regardez Nadal à quel point son dos est arqué souvent sur son deuxième service. C'est parce qu'il va la chercher loin, la balle. Félix le fait moins. Puis c'est pour ça que lorsque la balle touche au sol lors de sa deuxième, c'est une balle à plat, sans effet, qui arrive avec le même effet, si on veut, qu'un coup droit. Le rebond est droit, sans kick exceptionnel. Puis sur un deuxième, c'est mortel, ça. Surtout contre le deuxième au monde. Il va te ramener pratiquement ouais. comme si tu venais de l'envoyer un coup droit de fond de terrain.
Si le kick n'a pas un effet qui te sort du terrain, ça devient une balle haute assez facile à attaquer. Exactement. Et comme Medvedev est grand, c'est un ballon de plage pour lui. Donc effectivement, c'est un bon point.
Ben, c'est intéressant, messieurs, et c'est le fun quand les gens se joignent à la conversation comme ça avec nous quand on lève. On n'en fait pas beaucoup des lives et souvent on le décide à la dernière minute. Éventuellement, quand on aura une base vraiment peut-être plus grande, peut-être qu'on en fera plus régulièrement. Mais merci, Podolski et
Alex Jeff Fortin. Yes. Secondes, là, oh, pour ouais. ceux qui veulent voir des kicks impressionnants, t'as allé sur Google, là, marqué Roger Federer, second serve, highlight. Là. Mm. Vous allez voir le genre de rebond que Federer peut faire à la balle. Elle touche le sol, ça va en 180 à gauche.
Ouais, ouais, ouais.
C'est complètement dingue. Puis lorsque tu maîtrises ce genre de service, tu peux mettre dans ta petite poche dans l'arrière à peu près n'importe qui parce que c'est une balle imprévisible. Donc si Félix peut travailler sur ça avec un premier service comme on lui connaît, l'avenir lui appartient.
Ben, t'as 100% raison. Abraham, ça m'a fait rire parce que t'as souri quand Nico a parlé des deuxièmes services de Federer. Es-tu du genre à t'installer avec ton petit popcorn sur YouTube et regarder les deuxièmes services de Federer?
Non, pas autant, mais Federer, c'est la personne qu'on aime le plus voir jouer sur le circuit, là, puis on s'ennuie de ça, là, ça fait longtemps.
Je pense qu'on n'a aucune indication possible que Nico aime Federer présentement.
Non, vraiment, là.
Non. Ah, Nico, d'ailleurs, je t'ai fait faire ta casquette ah sur oui, la ligne. Bon, tous fait faire.
Voilà.
Je les ai ici, là, on en reparlera. Regardez, messieurs, là, j'en ai fait faire une dizaine de différentes couleurs. On en fera
c'est tirer. Noël après Noël. Écoute, c'est Noël après Noël. On est content.
Ben, en fait, ça a été compliqué. Je vous dirais, je vous raconterai ça hors d'onde, là, mais on en fera tirer aussi. Je vous ai préparé des casquettes pour toute l'équipe. Sarah Jade, Nico, tout le monde. Et puis, on en fera tirer pour des partisans. Et Abraham, t'es comme, ben là, moi, j'aimerais ça peut-être en avoir une bleue. Mais là, c'était compliqué. Mais finalement,
j'ai juste donné l'idée. Mais là,
j'en ai fait faire des bleus, mais je les ai pas reçus encore. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont sortir. On va leur faire sortir, alors, tirer. Alors, Podolskis et Jeff Fortin, quand on les fera tirer, inscrivez-vous pour avoir une casquette sur la ligne si vous êtes fan. Alors, messieurs, bon, passons au match déterminant, celui sur lequel Nico cognait des clous, celui sur lequel Abraham et moi, discussion à 3h30 du matin, comme s'il était 1h de l'après-midi, le match de double. Avant l'analyse du match, c'était quoi votre feeling du double? Je vais commencer avec toi, Abraham, puisque tu l'as écouté en direct. C'était quoi ton feeling avant? Est-ce que tu étais confiant ou est-ce que tu grattais la table en disant « je vais peut-être rester réveillé pour une défaite? »
Je te dirais que j'étais vraiment, vraiment stressé, tout seul dans ma chambre, à ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller le reste de ma famille. C'était avec la performance que Medvedev venait de donner, je me disais, il va donner cette confiance-là à sa fuline et ça va être vraiment difficile. Mais en même temps, je me disais, chapeau, Félix, ils ont beaucoup joué en double dans les juniors, puis dernièrement aussi. Fait que ça va être vraiment serré. J'étais vraiment mitigé, je ne savais pas.
Nico, est-ce que tu étais confiant une fois que tu as su que Félix avait perdu contre Medvedev et là, tout allait se décider au double?
Ben, c'est un peu présomptueux de dire que j'étais confiant, mais j'avais quand même une bonne intuition. Disons ça comme ça. Parce qu'il faut le dire, là, tu sais, Medvedev et Safiulin n'ont pas joué ensemble. Puis je répète un peu ce que je disais tantôt. Là. Vous le savez, les gars, ça c'est au tennis, comme dans n'importe quel sport, là, c'est beaucoup plus facile de jouer avec quelqu'un que tu connais, avec quelqu'un avec qui tu as pratiqué, qu'avec un inconnu ou un étranger avec qui tu n'as jamais joué. Les repères ne sont pas les mêmes, les réflexes ne sont pas les mêmes, les signaux ne sont pas les mêmes non plus. Donc, Félix et Denis ont joué souvent ensemble. Puis je me disais que c'est à peu près ce qui allait faire la différence. Quoique j'en ai douté un moment, parce qu'on a vu au deuxième set, là, Medvedev et Safiulin qui sont revenus un peu, là, comme si soudainement, là, ça faisait 10 ans qu'ils jouaient ensemble, que là, soudainement, ils se comprenaient, que soudainement, il y avait une cohésion parfaite. Félix et Denis, je les ai sentis un petit peu ébranlés par rapport à ça. Dans le genre, on ne s'attendait pas à ça. Tout allait bien, mais là, on est un petit peu ébranlés. Ils ont été bons, par contre, je trouve, de se ressaisir, de revenir, de se calmer surtout. De se calmer.
Quelque chose qu'ils ont dit dans l'après-match, c'est qu'ils se font confiance les deux ensemble. Puis c'est tellement important. Selon moi, Medvedev, peut-être des fois, il y avait des petits doutes avec Safulin ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble. Mais Félix et Denis, ça fait tellement longtemps qu'ils se connaissent qu'ils se connaissent par cœur. Fait que ça, c'était un grand avantage, selon moi.
Exact.
Hugues et Nico, qui, je dis souvent, vous avez une meilleure connaissance technique de moi que moi du tennis. Medvedev a dit hier que le double, ce n'était pas sa tasse de thé nécessairement. Est-ce que vous avez constaté, hier qu'il n'a pas connu nécessairement un grand match en double?
C'est pas un grand voléeur. Là. C'est un joueur de relance et de transition, Medvedev. C'est un jeu de fond de terrain qui met de l'avant avec beaucoup de succès. Mais le jeu de double au niveau tactique, essentiellement, c'est de prendre l'avantage du terrain, c'est de monter au filet. Donc, ça joue beaucoup là, sur la capacité à créer des schémas qui fait que tu repousses l'autre équipe et que tu prends le filet. Et Medvedev n'est pas le plus grand voléeur. Il peut faire des belles drop shots, il peut faire des belles choses aussi. Il a des bonnes mains quand même. Mais c'est pas un joueur naturel, c'est pas son jeu naturel. De monter au filet. Et déjà, ça, je pense que ça pouvait aider un peu Chapeau et Félix qui jouent plus en double et qui semblent plus à l'aise au niveau tactique. Donc voilà. Donc moi, c'est essentiellement ça que je dis par rapport à Medvedev et Safulin. Mais encore une fois, ils sont arrivés en confiance. Medvedev venait de gagner son match assez facilement. Safulin a vraiment poussé Chapovalov avant. Donc ils arrivaient gonflés à bloc. Mais en double, la somme est plus grande que les parties. C'est un bon exemple. Là, je pense qu'individuellement, peut-être que Medvedev et Safulin avaient peut-être une petite coche au-dessus hier ou cette nuit. Mais ensemble, la confiance que l'équipe avait entre Chapeau et Félix a fait la différence.
Oui, puis je vais reprendre, si vous le voulez, un petit peu les mots que mon entraîneur de l'époque me disait, Fred, que Chalut, qui me disait le double, c'est une game de secondes, puis le simple, c'est une game de minutes. Parce qu'en simple, tu as le temps de réfléchir à ce que tu fais entre les points. Les échanges, la balle arrive plus lentement. Tu as le temps de réfléchir. Ça peut durer une minute, un jeu. Puis Medvedev, on le répète depuis le début, il aime ça quand les échanges sont longs, quand la balle est loin, quand ça prend du temps, quand il faut qu'il s'installe. Mais dans le double, c'est une game de secondes. Il faut que tu choisisses rapidement ce que tu vas faire avec ton adversaire, avec ton coéquipier. La balle arrive rapidement. Le service arrive rapidement. Tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est une game de réflexe. C'est un jeu d'habileté, de réflexe et de positionnement. Tu n'as pas le temps de penser. Puis ça, je pense que hier, Medvedev, c'est apparu. Hugues l'a dit, à la volée, Medvedev, c'est moins ça. Puis au double, ça te prend la volée. On l'a vu hier, Chapovalov. Qu'est-ce que fait la différence? Son jeu au filet. Fait que ça se résume à ça pour moi.
Nico, je te trouve sharp pour un gars qui a travaillé tout le temps des fêtes.
Ben non, mais on... c'est un moteur. Hein? Faut alimenter ça. Puis, non, mais honnêtement, c'est ça. T'sais, le double, il n'y a pas de secret. Pour ceux qui l'ont joué, pour ceux qui nous écoutent, puis les gars, vous le savez aussi, tu n'as pas le temps de penser. Tu n'as pas le temps de t'installer. Mm. C'est instinctif. Faut que tu sois prêt, faut que tu sois habitué. Puis Medvedev, il a joué beaucoup de simples au cours des dernières années. C'est un des gars qui a joué le plus sur le circuit avec Djoko. Fait que, tu sais, ces réflexes-là, tu sais, ça aussi, c'est un moteur. Il faut que tu l'alimentes, il faut que tu joues le plus possible, puis il l'a moins fait, puis ça a paru. Très
bien. Ben, t'as raison, et c'est pas pour rien que, tu sais, il y a certains joueurs qui sont très efficaces en double et qui le sont moins en simple. C'est deux disciplines vraiment différentes. T'en as qui sont très bons dans les deux. Je pense aux Sœurs Williams, par exemple, qui sont capables, qui ont été au sommet dans les deux. Krejcikova, c'est un excellent exemple. Cette année, on peut pas dire le contraire, championne de Grand Chelem en simple, puis championne des finales de la WTA en double et championne de Granby. De Rapatulli, je le dis à peu près à chaque... et messieurs, pour revenir à Jeff Fortin, va acheter. Lui, il pense que c'est Chapeau. C'est sur le plan mental que Chapeau et Félix Auger-Aliassime ont gagné dans le deuxième set. Ben, ça fait partie de l'équation, assurément, parce que, disons-le, ils ont joué du tennis de rattrapage tout le long de ce match-là, parce qu'ils ont tiré de l'arrière pour 85-90% de ce match-là, ou en tout cas, ils n'étaient pas en avance pour 90% de ce match-là. Ça s'est décidé tard au deuxième set, au super tie-break.
Je peux en rajouter, il y a un grand tournant dès que... On l'a vu à la petite célébration quand ils ont gagné la deuxième manche. Il y a un tournant incroyable pour Félix à ce moment-là. Directement en commençant le super tie-break, on l'a senti. Là. C'est lui qui a fait le premier point au service, puis le service était revenu, le coup droit était revenu, il faisait plus de fautes directes. dès le premier point du Super Tiebreak, dans ma tête, je le savais qu'on allait le gagner. Pour vrai, là, ça avait tourné de bord.
Les gars, j'ai une question pour vous, si vous le voulez. Puis tantôt, parce qu'on avec mon ami Francis, que je salue aussi, qui nous écoute sûrement, quand on est toujours au hockey de sur la patinoire, on se posait la question, est-ce que vous pensez...
Viens commenter,
lui,
Francis.
Parce que lui est un gaucher aussi. Pensez-vous que ça a encore un impact, ça, le fait de jouer contre un gaucher?
Oui.
En tant que gaucher, je pense que oui.
Oui. La meilleure combinaison en double, c'est un droitier avec un gaucher.
Ben, c'est ça.
Et donc, c'est un avantage au niveau de la couverture, au niveau de... S'il y a une balle qui arrive entre les deux joueurs, tu sais qui va prendre quel coup parce que bon, on n'est pas du même côté. Évidemment, toujours l'efficacité des effets renversés. Abraham sait très bien de quoi on parle. Ça fait une différence. Puis on regarde les grandes équipes de double. Je pense notamment à McEnroe avec Peter Fleming dans les années 80.
Je m'en souviens pas.
Ce mix-là était superbe. Ça, c'est encore mon vieillage qui prend le dessus à ce moment-là. Mais oui, un mix gaucher-droitier en double, c'est toujours une bonne chose à avoir.
Reconnaîtrais-tu Daniel Nestor, Abraham?
Ben oui, ça je sais, c'est okay. La légende du tennis canadien en double.
Un des plus grands, moi je le dis, là, en tout cas, je fais une parenthèse, Daniel Nestor est un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire.
Oui.
C'est mon commentaire. OK, bon ben, OK. Juste un petit commentaire, les gars, sur le Super Tiebreak. Moi j'avoue, là, j'aime ça, le Super Tiebreak.
Oui,
moi aussi. Est-ce que ça aurait fait une différence si on avait joué un troisième set complet? Peut-être. Mais il y a une espèce de... Tu sais, c'est un peu comme des tirs de barrage au hockey. Tu sais, c'est... Oui. Moi, j'aime...
Je trouve que ça met de la pression. Vas-y, Hugues.
Ouais. Ben, j'ai l'impression que ça nous a avantagé parce que un super tie-break, ça se passe très, très vite. Nico en parlait. Le double, c'est un jeu de réflexe et de rapidité. Là, il fallait qu'on pèse sur l'accélérateur rapidement pour prendre les devants durant le tie-break. C'est vraiment ce qui s'est passé. On sortait de la victoire du deuxième set ou du gain du deuxième set. Donc les gars sont passés avec le momentum. Ils ont mis l'accélérateur à fond et ça a tout de suite été payant. Moi, j'aime beaucoup cette formule-là aussi. Je pense qu'elle nous a servi parce qu'on sait que Medvedev est un joueur qui aime s'installer dans toutes les situations de match. Il perd souvent le premier set, Medvedev. Vous regardez ses matchs, il trouve une solution en deuxième, troisième pour gagner. C'est une constante chez lui. Donc, c'est un joueur qui aime s'installer autant dans les matchs que dans les échanges. Donc, la situation du super tiebreak, je pense, ne devait pas lui plaire particulièrement parce que là ça va vite en titi. Là. En 5 minutes, c'était fini.
Alex, tu l'as dit, le super tiebreak amène cette espèce d'urgence. Puis, je serais curieux de voir la moyenne de temps pour la prise de décision du petit caucus. Là. Plus ça allait, là, chapeau Félix, là, c'était bang, 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 on savait quoi faire. Du côté des Russes, c'était tout le temps un petit peu un peu plus long, des petits signaux un peu plus longs. Fait que, t'sais,
bonne observation. Ça, évidemment.
À la fin, là, regardez là, si vous avez la chance de revoir peut-être les 5-6 derniers points du dernier set. Là. Félix puis Chapeau, ils se parlaient même plus.
Ben, on revient sur la chimie de l'équipe. C'est ça qui a fait la différence. Il y a une chimie, ils n'ont pas à se parler, ils se connaissent, ils sont amis, ils savent comment ils vont réagir dans une situation XY. La différence, ça se fait là souvent en double.
Messieurs, je veux souligner à quel point c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé hier. Parce que, bon, après la première défaite du Canada, dans une ronde de poule comme ça, une défaite, c'est très, très, très coûteux. Ouais. Surtout quand tu commences avec une défaite.
Ouais.
Le Canada revient de loin dans cette compétition-là. Bat les champions en titre avec le meilleur joueur au monde présentement, je l'ai dit tout à l'heure. C'est phénoménal ce que le Canada vient d'accomplir. Et j'espère que les amateurs de sport comprennent que l'ATP Cup, ça s'en vient une compétition de plus en plus prestigieuse. Bon, la preuve étant, Medvedev y était. Je veux dire, c'était pas une équipe de Russie. C'était pas l'équipe de Russie A, disons-le comme ça. Là.
Des blessures, hein. Ils sont pas allés. S'il n'y avait pas Rublev et Karatsev, c'est pas parce qu'ils voulaient pas jouer, c'est qu'ils pouvaient pas jouer. Ils ont décidé de peut-être se préserver pour l'Australian. Mais tous les pays arrivent pas mal avec leurs meilleurs joueurs.
Ouais, puis les gars, aussi, il ne faut pas oublier que l'ATP Cup, c'est pas tellement vieux, puis les deux premiers champions, c'est la Serbie et la Russie. Fait qu'imaginez si le Canada devait s'ajouter à cette liste-là. C'est un signal incroyable pour le reste de la planète tennis, parce qu'on aurait la Serbie et la Russie qui sont probablement les deux meilleurs pays sur la planète. Là. Et là, on aurait le Canada aussi dans ce trio-là qui viendrait confirmer ce qu'on dit depuis le début du podcast. Le Canada est devenu la référence en termes de tennis au monde.
Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais l'impression, écoute, après la défaite contre les Américains 3-0, je donnais pas cher de la peau du Canada, mais ils m'ont vraiment impressionné pour remonter. Puis effectivement, Nico, on joue dans la cour des grands maintenant, on le savait. On espérait avoir l'équipe numéro 1 en Coupe Davis, ça n'a pas été le cas. La Russie a gagné. Là, on se reprend en ce moment et on va rejouer contre l'Espagne qu'on a joué en Coupe Davis il y a deux ans.
Nadal n'est pas là, là.
Sans Nadal, c'est vrai, mais avec quand même deux très bons joueurs, Carreño Busta et Batista Agut. Mais effectivement, on est dans le trio ou les quatre plus grands pays au monde au niveau tennistique en ce moment, et ça se confirme maintenant.
En tout cas, je voulais souligner à quel point c'était phénoménal. De un, parce que le Canada revenait de loin. Et de deux, c'est quand même une grande victoire ce qui s'est passé hier. Mais si on avait prévu peut-être faire 30 minutes, j'espère que vous n'êtes pas pressé parce qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission, qui est l'analyse de la finale à venir. Parce que, bon, le Canada a gagné et ben, le but, c'est de pouvoir regarder un peu les forces en présence pour le match de la finale. Et là, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît. Il n'y aura pas beaucoup de surprises. Je pense que les joueurs se connaissent assez bien. L'Espagne a une profondeur assez exceptionnelle. Ce ne sera pas facile. Messieurs, avant qu'on se lance dans l'analyse générale, dans l'analyse plus précise, commentaire général sur cette confrontation-là. Et peut-être... je vais laisser les prédictions pour la fin. Je voudrais définir cet affrontement-là en deux ou trois mots. Je commence avec toi, Hugues.
Espagne sans Nadal, faut quand même le dire, qui s'entraîne sur un autre terrain en ce moment, mais avec deux joueurs extrêmement, extrêmement constants, des machines de tennis, deux très, très bons joueurs. Ça sera pas facile, mais encore une fois, j'aime le côté agresseur de notre style de jeu au Canada. On est des joueurs plus d'attaque, je dirais, que les Espagnols. Je pense que ça pourra peut-être nous servir dans ce format-là. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment nos chances dans cette finale-là, plus que lors de la finale de la Coupe Davis en 2019, où Dieu sait qu'on était passé très, très près. Donc,
moi, j'ai trois mots, si jamais.
Ouais, mais hein? Hugues, il l'a fait en trois paragraphes. Nico, trois mots pour définir cet affrontement.
Vas-y, non, Abraham.
Moi, j'ai mes trois mots, c'est « tout est possible ».
On va fermer le show.
C'est ça.
Nico, trois mots.
Alex est resplendissant.
Ben, merci.
Ce sera merci. Non, mais je dirais sans a priori. J'irais avec ça. Okay. Parce que là, on voit là, la stats là, 4 et 1 pour Carreño Busta. Mais j'ai tendance à ne pas prendre en compte ce genre de stats dans des tournois comme ça. Dans la TP Cup, dans la Coupe Laver, dans la Billie Jean King Cup. Pour moi, ce sont tellement des bulles à part. Ce sont tellement des contextes différents que je n'ai pas envie de me fier et de baser mon analyse sur ce genre de stats-là. Je pense que Batista Agut aussi a l'avantage sur Félix, à moins que je ne me trompe. Mais dans ce tout ça pour dire que dans ce genre de tournoi... Dans ce genre de tournoi, je me fie vraiment plus au momentum et à ce que les joueurs nous ont donné depuis le début du tournoi. Et présentement, ceux qui ont le vent dans les voiles, c'est le Canada, c'est Denis, ces chapeaux qui ont battu les champions en titre. Et je pense que d'avoir joué Medvedev, en tout cas, du moins pour Félix, c'était une belle préparation pour Batista Agut, parce que lui aussi, là, c'est un guerrier. C'est un joueur tenace, c'est un joueur que personne n'aime affronter, qui peut rester là 6 heures s'il faut, mais il va finir par gagner le match. Donc, c'est une belle préparation et j'ai envie d'y aller sans a priori pour cette finale-là.
Ce que j'aimerais souligner, c'est que l'Espagne, tu sais, on peut avoir tendance à penser qu'ils sont très efficaces sur terre battue, et c'est le cas, mais Carreño Busta et Roberto Bautista Agut, ce sont deux joueurs qui sont très polyvalents et très efficaces sur surface dure. D'ailleurs, ouais. Si je ne me trompe pas, Abraham, peut-être que tu peux descendre, mais je pense que la seule victoire de Shapovalov, ironiquement, contre Carreño Busta, ouais. C'était sur terre battue. Ouais. Exactement. Alors ça, c'est important à souligner parce que le match, il est diffusé sur... Il est joué sur dur et aussi diffusé sur dur. C'est le retour de vacances, monsieur. Ça va être intéressant parce qu'on pourrait dire, OK, a priori, peut-être peut-être qu'il peut y avoir un avantage de Chapeau, qui est un excellent joueur de dur également, mais pas si vite dans cette analyse-là. Jeff Fortin, lui, qui analyse également, a dit ben, « La fatigue est selon moi un facteur. L'Espagne a eu une journée de repos. C'est un excellent point. Oui. » D'autant plus que Félix et Dennis auront dû jouer un match supplémentaire hier tard. Est-ce que ça va les affecter? C'est effectivement un excellent point. Jeff, merci pour ta contribution. Si j'étais l'entraîneur du Canada, je pense que je mettrais Félix au GLSM contre... Abraham, explique.
Ben, en fait, c'est les joueurs numéro 1 qui s'affrontent puis les joueurs numéro 2 qui s'affrontent. Donc, tu peux. Malheureusement, c'est pas possible.
Alors, juste pour spécifier, le Chapeau Valeur va affronter Carano Busta, Félix Auger-Aliassime contre Bautista Agut. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là parce que je pense que la dernière fois qu'on les a vus, ces deux-là, ça avait donné un match hallucinant. Oui. C'était au US Open. Exact, c'est ça, c'était au US Open. Ça avait été un match absolument éblouissant. J'ai hâte de revoir ça. Moi, je pense que c'était un de mes matchs de l'année passée. Alors, j'ai hâte de voir ça. Et le double, ce sera Davidovich Fokina. Un autre, lui, qui a joué à Repentigny, messieurs, Davidovich Fokina. D'ailleurs, il a gagné ce tournoi-là, si je ne me trompe pas, avec Pedro Martinez, non pas le lanceur, l'ancien des Expos. Et le double, ce sera effectivement Chapeau Valov et Félix Auger-Aliassime. Ça, ce sera pour les trois confrontations. Alors, avant qu'on passe à Auger-Aliassime, Nico, peut-être un commentaire sur Carano Busta contre Chapeau Valov. Tu penses quoi de cette confrontation-là? Tu t'attends à quoi?
Ben, tu sais, on le répète, mais dans l'eau espagnole, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a certainement des molécules d'endurance. Parce que les Espagnols, tu sais, Bautista Agut, Carano Busta, Nadal, maintenant Alcaraz aussi, ce sont des marathoniens, ce sont des joueurs qui sont tenaces, que personne n'aime affronter. Ce sont en termes de hockey, c'est du papier sablé. Là. Ce sont des travaillants, des gars qui s'acharnent à la tâche. Ce ne sera pas facile, évidemment. Ce ne sera pas facile. Et clairement, à mon avis, tous les matchs iront en 3-7. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne. Mais non, c'est honnêtement, préparer un petit popcorn. Tantôt, tu parlais de ça, Alex, hein, ou des petits biscuits et pépites de chocolat de Noël, là, s'il y a des restants, là, parce que vous allez veiller tard. Là.
Carano Busta, c'est un excellent joueur, messieurs, mais je vais vous montrer quelque chose. Je regardais pendant que Nico parlait la fin de saison de Carano Busta. Seulement un deuxième tour à Paris, à Vienne, défaite au premier tour. Indian Wells, aura gagné qu'un seul match. À Metz, bon, un tournoi 2-50 a fait la finale, mais il a perdu contre Urkach. US Open, défaite au premier tour. C'est pas un joueur qui a gagné beaucoup dans les derniers mois. Ça pourrait être un avantage pour Denis Chapovalov, qui visiblement joue à un bon niveau présentement. Hugues, est-ce que tu penses que c'est un facteur à prendre en considération ou est-ce que je vais trop loin?
Moi, je pense que le match-up nous avantage. Je le redis, là, je pense qu'on va arriver... Si l'aspect fatigue est pas un facteur, mais n'oubliez pas que Bautista Agut a fait un 3-7 compliqué contre Urkach, qu'il a finalement gagné la demi-finale qu'il jouait contre la Pologne dans leur demi-finale. Donc, Bautista Agut a aussi un match difficile aussi de son côté, là, même s'ils ont pas fait le double. Mais moi, je pense encore une fois que le match-up nous avantage. Autant au niveau simple qu'au niveau du double. Donc, et puis n'oubliez pas que Urkach est le partenaire de double de Félix. Donc sûrement que Félix va parler à Urkach pour savoir comment Bautista Agut a joué. Il va aller chercher quelques informations sur le jeu actuel de Bautista Agut auprès de Hubert Urkach, qui est un très bon ami à Félix.
Messieurs, c'est pour ça qu'il faut que les gens écoutent le podcast Sur la ligne. C'est pour des analyses comme celle que Hugues vient de faire. Colin, que j'aime ça travailler avec vous, messieurs. Excellent, excellent point. Abraham, commentaire général avant qu'on passe à Félix Auger à Aliassim.
En fait, Denis, il faudrait qu'il soit préparé, qu'il y ait des bons échanges de fond, comme un commentaire le disait. Ouais. Qu'on serve bien, puis peut-être écouter les échanges, comme le commentaire a dit. Parce que si on reste au fond, Carano Busta et Bautista Agut vont avoir le dessus sur le Canada.
On reviendra sur les prédictions, messieurs, à la fin de l'émission. Pour ce qui est de Félix Auger-Aliassime contre Bautista Agut, Abraham, je ne sais pas si tu peux nous mettre... Ah, il était là. C'est moi qui l'ai enlevé tantôt. À quoi doit-on s'attendre de cette confrontation? Comme je le disais, le dernier match entre les deux avait été absolument phénoménal. Je pense qu'on va avoir encore un petit match popcorn. Moi, je m'attends à ce que ce soit un excellent match. Nico, t'en penses quoi?
Je pense que Félix va devoir prendre des chances. Je pense que Félix va devoir user de stratégie, mais aussi être ultra agressif, comme Hugues le disait tantôt pour Chapeau. C'est évident qu'il y aura beaucoup de fautes directes. C'est évident que Félix fera des erreurs. C'est évident que Félix va peut-être même perdre un set. Il faut s'y attendre. Mais pour battre un vétéran comme Batista Agut, qui connaît le tabac, là, qui a joué dans plusieurs compétitions comme ça, qui peut retourner toutes les balles, Félix va devoir viser les lignes. Va parfois devoir servir un premier en deuxième balle. Va souvent monter à la volée. Il faudra ébranler Batista Agut. Il faudra vraiment que Félix... Là, je sais que Félix aussi, c'est un gars qui aime prendre son temps, c'est un gars qui aime s'installer, qui aime analyser son adversaire, mais là, il faudrait qu'il soit expéditif. La balle arrive, tu vises les lignes, tu vises le fond, tu fais des amortis. Il va devoir vraiment user de toute sa polyvalence parce que sinon, Batista Agut va le surjouer, puis ça, il ne faut pas que ça arrive.
Je suis d'accord avec toi, Nico, parce que quand on regarde le dernier match qui a été joué, moi, je me souviens d'avoir dit que Roberto Bautista Agut avait une défense absolument incroyable. Ouais. Tu sais, on parle de Medvedev qui a une bonne défense, Djokovic qui est peut-être le maître de la défense. Roberto Bautista Agut, c'est un gars qui bouge très bien et qui a une excellente défense également. Abraham, tu vois ça comment, ce match-là?
Moi, j'ai une chose à dire. Selon moi, Félix aura le goût de vengeance parce que si on regarde en bas, leur premier affrontement, c'était en finale de la Coupe Davis en 2019. Finale Canada-Espagne, comme on va observer ce soir à la TP Cup. Et ce match-là, Batista Agut avait gagné pas mal facilement. Ouais. Je pense que Félix s'en souvient et veut changer la tendance.
Ben, le collègue Jeff Fortin là, dit exactement la même chose que toi. Voyez, les gens...
On est connectés.
Messieurs, on n'a pas le droit à l'erreur parce que les gens à qui on parle savent de quoi qu'on parle. Alors, c'est le fun d'avoir des gens qui suivent le tennis autant que nous. Merci d'être là avec nous. Merci de discuter avec nous. C'est exactement la raison pour laquelle on fait ça. Puis on invite les gens vraiment à discuter. Puis éventuellement, on l'a fait dans le passé, là, mais on va inviter aussi les gens non seulement à faire des commentaires, mais à venir dans le live avec nous. Podeskills ajoute la clé pour Félix Auger-Aliassime, selon moi, c'est le 1-2 punch, le coup droit des croisés. C'est un peu ce que Nico disait. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils prennent un peu plus de risques, mais qu'ils soient un peu plus agressifs. Vraiment arqué pour pouvoir ouvrir le terrain et aller dans l'ouverture, ben c'est du tennis 101. Et s'il y a une chose qui avantage peut-être Félix, c'est que c'est un joueur tellement intelligent, ça ne lui n'ira pas. Ah, ben merci à vous pour le bon podcast. Ben, gênez-vous pas pour nous écouter, partager et dire à vos amis, votre mère, vos frères, vos sœurs, etc. Ça nous fait absolument plaisir. Est-ce que j'ai fait le tour, Hugues? Commentaire sur Batista Agut et Félix?
Je pense que ce match-là, Félix va le gagner. Je pense que la rencontre va se terminer 2-1 pour le Canada. J'en ai déjà ma prédiction, mais effectivement, Félix va vouloir venger sa défaite en Coupe Davis là, de 2019. Donc, je pense que Félix va sortir son grand jeu demain, mais il va devoir provoquer des choses. S'il provoque des choses et son jeu est bien placé, il va gagner ce match-là.
Donc, ce que tu entends, toi, d'une certaine manière, c'est que Shapovalov perdrait son match. Parce que si ça finit 2-1, on va se rendre jusqu'au double.
Exact. Je pense qu'il va avoir un match perdu et ça va être celui de Chapeau. C'est ma prévision.
Sam Gamji, très intéressant. Merci, Sam Gamji. Tu me donnes le goût d'écouter Lord of the Ring. C'est intéressant. Jeff Fortin qui ajoute aussi, c'est moi qui ai fait l'erreur sur ma carte cachée de l'Espagne. Il n'a pas gagné Grand Chelem en double. Il va le jouer. C'est moi qui ai fait une erreur. C'est pour ça.
Selon lui, Carlos a gagné un grand chelem en double, ça, je ne sais pas.
OK, vite comme ça, je ne suis pas trop sûr, mais de toute façon, il joue pas le double. Ce n'est pas lui qui va le jouer dans cette confrontation contre le Canada, là, comme je disais un peu plus. Non, c'est Fokina contre avec l'ancien lanceur des Expos, Pedro Martinez, s'est converti au tennis. Merci Jeff Fortin d'ajouter à la conversation une fois de plus. Merci infiniment. Bon, parlons-en, messieurs, du double, puisqu'on y est, messieurs. Bon, Hugues commence avec le double.
Ben, on va être contre une équipe aussi qui est expérimentée ensemble. Donc, ça va être extrêmement serré. Mais encore une fois, je pense qu'on va aller le chercher dans le Super Tiebreak, que le tournoi va se terminer comme ce qu'on a vu la nuit dernière. Donc, ça va être un 3-7. Là, je pense qu'on va échapper un 7 parce qu'on a des très bons adversaires. Encore plus fort, je dirais, peut-être en équipe que Medvedev et Safiulin cette nuit. Donc, victoire en 3-7 demain ou cette nuit pour le Canada.
OK. Nico?
Prendre ce que Hugues a dit, le surligner, copier, coller. Voilà. c'est carrément ça. Je veux dire, évidemment, dans le monde du sport, rien n'est assuré, rien n'est certain. Mais dans ce cas-ci, il y a de bonnes chances que ça se finisse comme ça. Je vois. Je ne verrais pas un autre scénario. Pour moi, c'est impensable que le Canada gagne en 2-7. Pour moi, c'est impensable que l'Espagne gagne en 2-7. Après, c'est rang 3-7. Puis l'avantage, encore une fois, je pense que ça va se décider avec la complicité et la complémentarité de Chapeau et Félix.
Et pour les gens qui se posaient la question, j'ai de vérifier, là, Carreño Busta n'a pas gagné de grand chelem en double. Il a gagné le Masters Mill de Cincinnati. Il a gagné le tournoi Rio de Janeiro. Il a gagné à Beijing et Quito. C'est quand même un bon joueur de double, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne jouera pas contre nous. Merci de ne pas jouer contre nous.
Quoi qu'il arrive dans une bonne journée, attention.
Vous savez pas, peut-être à la maison, là, mais Hugues, en plus d'être un expert marketing, un homme séduisant, un homme d'une éloquence incroyable, est aussi un excellent joueur de tennis. Semble-t-il qu'il a une bonne première balle et vise numéro un mondial chez les 50+.
Chez les 75 et plus.
Ah, 75+. Non, mais là, tu dois même pas être accessible. Tu n'as même pas... 37, là, toi, encore, là, t'es même pas là. Abraham Santerre, lui, vise numéro un mondial chez les 13 ans et moins.
Oui, c'est ça, exactement.
Nico a failli perdre son ordinateur en crachant dessus, comme ça. Nico, avec tes skis derrière, là.
Ah, ça n'a rien à voir. Là, on a un petit sport au plus. Là, on a un snow et certains bâtons de hockey. Alors...
C'est dans le garage.
On s'éloigne du sujet. Mais c'est ça, quand des amis jasent ensemble, c'est ça qui arrive. On a une question ici, messieurs. Est-ce que vous préférez la formule de l'ATP 2-3 face à celle de la Coupe Davis 3-5?
L'ancienne formule?
Ouais, c'est-à-dire que... Ouais, mettons, pour les besoins de la discussion, je pose la question. Est-ce que vous aimez la façon, le 2-3, plus court, plus, pas le droit à l'erreur?
Ouais, parce que aussi, ça permet de jouer plusieurs matchs dans une même journée, ce qui serait peut-être pas le cas pour la Coupe Davis. Fait que, tu sais, là, en une journée, on s'est réglé, on sait ce qui arrive, demi-finale est faite, merci, bonsoir. 2-7, on est dans l'urgence, c'est spectaculaire, puis les gars sont pas trop usés, fait que tout le monde voudra participer. Je pense que si c'était seulement des 3-5, il y a peut-être des joueurs qui seraient réticents, sachant qu'il faut... qui joue peut-être, je sais pas, une quinzaine de matchs en une semaine. Fait que, je pense que le format est bon.
Ouais,
sur le format d'une semaine, effectivement, un 3-5, ça épuiserait pas à peu près, là, jouer back-to-back-to-back, là, ce serait un horaire potentiellement de grand chelem. Puis si, en plus, il faut que tu joues un double, t'es mieux d'avoir de la profondeur dans ton équipe. Et ça équilibre les choses aussi. C'est-à-dire que ça donne plus de chances à plus de pays, parce que sur un 3-5, probablement que les meilleurs pays vont gagner sur une plus grande, une plus grande portion statistique des match-ups, alors que ça ouvre plus de place à la surprise. Si tu as un seul bon joueur, par exemple à l'époque où, je dis n'importe quoi, là, mais si on avait juste Félix Auger-Aliassime dans ce match, dans cette confrontation-là, on aurait quand même des chances légitimes de pouvoir gagner.
On l'a remarqué avec la Géorgie, qui n'avait pas Basilashvili avec eux en plus. C'était des joueurs au-dessus du top 100, puis ils ont quand même fait des belles performances. On a vu des beaux highlights en double qui ont célébré. Puis ils ont eu du fun, eux. Puis là, on les voit maintenant, on les connaît.
Et surtout, je le dis.
Des nouvelles personnes.
Exact. Et surtout, je le dis souvent, c'est quelque chose que je répète souvent quand je fais des chroniques à la radio ou quand on en parle au podcast. C'est-à-dire que le classement est beaucoup plus près que ce que les joueurs peuvent penser. Oui. La différence entre un top 10 et un top 70, des fois, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapprochée que ce que les gens peuvent penser. C'est-à-dire que, le format de 2-3, je pense, offre une possibilité à plus de pays d'être compétitifs. Disons-le comme ça. Alors, pour cette raison-là, moi, j'aime beaucoup cette formule-là.
Ouais.
Malgré tout, moi, j'aimais bien la formule Coupe Davis à 3-5. Ça ouvre la porte à d'autres débats aussi, dans les grands chelems aussi. Pour les matchs purement, là, je parle les matchs, pas juste la confrontation. Enfin, voilà. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Hugues, tu voulais
dire? Ben oui, ben, moi, je pense, pour conclure sur le format, je pense que l'ATP Cup donne un coup de vieux à la Coupe Davis en ce moment. Je pense que le format est mieux adapté à l'audience en 2022. Je pense que le rythme est plus intéressant. Puis je pense que le fait que ça soit rassemblés sur quelques jours, qu'il y a plusieurs matchs par jour, fait que l'intérêt des fans reste élevé, ce que la Coupe Davis a de la difficulté à retrouver en ce moment. Le nouveau format que le promoteur groupe Cosmos a mis en place pour la Coupe Davis est loin de faire l'unanimité en ce moment. Donc, la TP Cup, à tout point de vue, là, c'est une formule gagnante pour les matchs par équipe en ce moment. Ils semblent prendre un petit peu d'avance sur la Coupe Davis. Ils sont mieux placés au niveau du calendrier aussi, oui. Juste avant l'Australia Open. La dynamique des équipes sur le terrain, c'est le fun. Le LED incurvé ou en fond de terrain est sublime. La réalité augmentée que vous voyez durant les diffusions avec le score, avec les points importants qui sont en overlay sur le terrain, c'est de la réalité augmentée. C'est très bien fait. Donc, je pense que l'ATP Cup, dans les tournois par équipe en ce moment, prend les devants à plusieurs niveaux sur la Coupe Davis.
Ouais, moi j'aime beaucoup le look graphique de la TP Cup, là, c'est une autre affaire complètement, là, mais toi qui es un expert marketing, j'aime beaucoup les drapeaux en forme de balle.
Oui, c'est super beau.
J'ai trouvé ça. Non, c'est vrai. En tout cas, on s'éloigne. Sam Gamji qui disait première expérience avec vous, j'apprécie beaucoup. Ben merci. J'espère que c'est pas votre dernière expérience avec nous. Sachez qu'on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, la plupart des versions de balado diffusion. On est également disponible sur YouTube. On met pas beaucoup. Je vais dire, c'est ma faute à moi. Je mets pas beaucoup d'accent sur la version vidéo encore. Là, on a une chaîne YouTube, mais je mets pas beaucoup d'accent sur ça. Mais ça viendra. Ça viendra éventuellement. On raffinera la version vidéo. Mais en audio, on est partout. On est disponible aussi sur le site de Tennis Canada. Je rappelle qu'on est le podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. On est diffusé au 91.9 Sport également à Montréal. Et Hugues, je veux te souligner. Sam Gamji, je plus sois le commentaire d'Hugues. Est-ce que ça veut dire qu'il dit je mets un plus un, c'est ça qu'il veut dire? Je plus sois. Ben, en tout cas,
c'est un beau mot, en tout cas. C'est un mot que j'aime beaucoup. Je ne suis pas sûr ce que ça veut dire, mais c'est un beau mot.
Ben, merci, Sam Gamji. En tout cas, j'ai l'impression qu'il aime tes commentaires. Et c'est le cas de moi, Abraham et Nico aussi. OK, messieurs, on ne s'étendra pas plus longtemps. On va passer aux prédictions avant de conclure l'émission. Je vais commencer avec les 14 ans et moins, Abraham Santerre. prédiction pour cette confrontation-là. Vas-y donc avec une prédiction pour chaque match. Allons-y, là, puisqu'on y est.
Bon, ben, je vais faire ma prédiction pour chaque match. Premièrement, chapeau, je prédis une victoire pour lui parce que depuis hier...
Merci beaucoup, Abraham. Non, c'est une
blague. Bon, ben, au revoir. ma maman m'appelle. chapeau, il va gagner parce que depuis hier, c'est lui, je trouve, qui donne le momentum à l'équipe. Félix, je pense que ça va être difficile encore, surtout contre Batista Agut qui est très, très, très dur sur le niveau mental. Et en double, on va gagner parce qu'on vote le Canada, puis on vote pour notre pays, hein. C'est ça qu'il faut.
Oui. Sur ton commentaire d'Abraham, c'est tout à fait vrai que plusieurs pays de l'ATP font des surprises. Ben oui. Et Hugues, j'ai une précision pour toi ici, tout à fait pour la compréhension, un joyeux néologisme. Alors, merci. Je plus sois, ça veut dire tout à fait. Alors, merci Sam Gamji de faire notre éducation. Ne vous gênez pas pour ajouter à notre vocabulaire et surtout à celui de Nicolas Richard, puisque Nicolas a passé 4 mots, c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Beaucoup. On le dira pas à tes patrons à la presse. Mais Nicolas Richard, puisqu'on y est, prédiction pour les matchs et prédiction pour la confrontation.
Ouais, ça va être assez simple. Défaite de chapeau, malheureusement, victoire de Félix et victoire en super tie-break d'égalité plus pour le Canada qui mettra la main sur la 3e édition de l'ATP Cup. Voilà.
Hugues, Prédiction, ben, ça va être copié-collé de ce que Nico vient de dire. Hein.
Je pense que le Canada va remporter cette ATP Cup en 3 matchs, mais je pense que cette fois-ci, que c'est Félix qui va tirer l'équipe. C'est Chapeau qui a eu un peu le dessus depuis le début, et demain ou cette nuit, c'est Félix qui va prendre le dessus.
Le victoire, capitaine.
Ouais, victoire en 3-7. Je répète, les matchs seront diffusés en direct à 1h du matin. Je sais que TSN l'a confirmé. Je ne sais pas si RDS va prendre la diffusion. Je l'espère, parce que c'est quand même un moment important pour le tennis au Canada.
Très important.
1h du matin pour ces matchs. Donc, je prédis une victoire du Canada en 3 matchs.
Et je ne vais pas mettre RDS sur le spot, mes anciens collègues à RDS, mais j'imagine qu'à 1h du matin, la grille horaire ne doit pas être si chargée que ça. Enfin,
il y a toujours, toujours un hockey, un 5 à 7 à diffuser ou un top 10 quelconque. Alors,
Non, mais en même temps, ça peut être une question de ressources. Là. Ça peut être, j'ai travaillé assez longtemps en télé et je suis encore très proche des télés traditionnelles pour savoir que c'est quand même pas si simple que ça là, à la défense de RDS et TVA. Surtout en temps de COVID, peut-être de trouver du staff et d'amener une équipe technique, c'est peut-être pas aussi simple que ça si ce n'était pas prévu d'avance. Messieurs, tant qu'à ce qu'on y soit... Hey, je vais faire mes prédictions, moi aussi, j'ai le droit. J'ai le droit. Moi, je vais y aller, messieurs, avec un blanchissage canadien. Ce sera terminé, messieurs, après la deuxième rencontre. Chapeau et X. 2 matchs, bing-bang, la coupe élevée, messieurs. Champion. Victoire historique du Canada.
Prédiction audacieuse, audacieuse, mon cher Alex. Mais c'est pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible.
C'est plus que. C'est très possible. Nico, tu voulais ajouter?
Oui, je me rappelle plus. Le trophée est-il beau à la TP Cup? J'ai pas souvenir.
Il est sûrement plus beau que le trophée de Cincinnati.
Ben, c'est ce que j'allais dire, là, sachant ton amour pour le design des trophées. Je me demandais si tu savais à quel point il était beau ou pas. Là.
Non, par cœur. Ce serait malade que le Canada gagne. Je veux y croire vraiment, mais ce sera tout un défi, c'est sûr. Dis-donc, ceux qui sont là avant que je close l'émission, Jeff Fortin, Podoskills, Sam Gamji, là, qui ont jasé avec nous à peu près toute l'émission. Allez-y donc avec vos prédictions. Je vais les mettre en onde pendant que je fais les plugs pour le podcast. Sam Gamji qui dit « Vendu, Alex ». Ben oui, victoire du Canada, pourquoi pas. Ben voilà. Hugues, je veux juste je vais faire les plugs pour le show. Tu veux juste rappeler rapidement qu'on a eu des bonnes performances pour le podcast, malgré qu'on n'ait pas diffusé d'épisode dans le temps des fêtes.
Ben ça, c'est intéressant parce qu'on a notre dernier podcast, c'était notre bilan de l'année, qui est toujours en ligne si vous voulez l'écouter, là, qui est très intéressant avec nos invités, Robbie Ménard, un des premiers coachs de Léla Fernandez et de la légende des médias au Québec, Paul Rivard. Mais on suit les résultats, évidemment, de Léla, de l'ATP Cup depuis le début du mois de janvier. Et on est quatrième au Canada sur Apple Podcast en ce moment, devant des podcasts diffusés par ATP Media notamment. Donc, le podcast a beaucoup de personnes qui le suivent. Donc, on est très contents puis on vous remercie. Donc, le quatrième podcast tennis au Canada, puis on est diffusé seulement en français. Donc, ça, c'est signe que le podcast plaît aux gens puis on est très contents de vous parler à chaque semaine.
Ouais, exact. Et l'épisode de fin d'année est un épisode particulièrement complet. Là. Oui. On a vraiment décidé de pas couper dans le temps et de laisser la place à la discussion. Je pense que c'est un épisode qui fait presque 1h40. Là. En général, on fait plus autour de 1h, surtout parce qu'on est diffusé à la radio, puisqu'on est pris dans un format un peu radiophonique traditionnel. Là. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisque c'est un épisode exceptionnel. Jeff Fortin, lui, disait « Espagne 2-1, pense que la fatigue va être va entrer en ligne de compte. » C'est très probable également. Chapeau bas, Carreno Busta, Busta bas, FAA, match de double. Lancer les dés. Il se commet pas, le bon pas de skills. Ne se commet pas. Dit advienne que pourra. Ben, c'est vrai que rendu là, ça peut être effectivement un coup de dé. Messieurs, avant de vous laisser, je veux vous dire que lundi, ce sera le retour de sur la ligne les épisodes réguliers, c'est-à-dire la saison 3 qui va commencer. Notre premier épisode sera diffusé lundi au 91.9 Sport. On est effectivement disponible aussi sur toutes les plateformes, comme je le mentionnais précédemment, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., YouTube. On est sur le site de l'Omnium de Banque Nationale, le site de Tennis Canada, et on continue de vouloir faire prendre de l'expansion à ce podcast-là. On va parler, messieurs, de Djokovic. Hein, je pense qu'on va en parler lundi.
Beaucoup de sujets.
Ah, si, oui. Bon, on manquera pas de sujet parce qu'on va revenir sur les premiers résultats de l'année. Du côté des femmes, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées. Là. Je regardais les premiers tableaux. Il y avait des tableaux assez relevés malgré des tournois de moins grande envergure.
Le retour de Sophia Kenin, messieurs, c'est cette année.
Ben ça se pourrait, et je regardais les demi-finales là, des tournois féminins, puis c'était des demi-finales de haut calibre. On va revenir, on va faire le débrief de ce qui se sera passé en finale aujourd'hui, évidemment. On a toutes sortes d'autres sujets. Et Abraham, juste avant qu'on quitte les gens, tu avais un commentaire sur Peng Shui, et je veux qu'on en parle rapidement, vite, là. C'est son anniversaire, n'est-ce pas?
Oui, ben là, je vais déposer ma casquette du Canada pour un instant. Et je vais parler de Peng Shui. Aujourd'hui, c'est sa fête, la fête de Peng Shui, qui, on se rappelle, depuis début novembre, qui est portée, pas disparue, mais on a très peu de nouvelles d'elle, qui est en Chine, qui est victime d'une propagande d'un régime communiste. C'est vraiment pas le fun. Puis on espère qu'elle passe une belle fête, malgré tout, puis qu'on ait des nouvelles d'elle le plus tôt possible. Elle qui n'est pas en Australie.
Parce que dans toute cette situation-là, celle de Djokovic et tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, les COVID, les résultats. Il faut se rappeler qu'il y a des situations aussi qui dépassent l'entendement. Et le cas de Peng Shui, il ne faudrait pas l'oublier non plus parce que, entre guillemets, elle n'est pas sortie du bois. Alors, c'était un petit mot qu'on voulait faire souligner l'anniversaire de Peng Shui. Hugues Léger, merci infiniment. Nicolas Richard, je te laisse retourner à tes articles et je te le dis d'avance, tu vas nous préparer une petite chronique sur tout ce qui s'est passé avec Djokovic. Ça ne devrait pas être trop compliqué parce que j'ai vu que tu as publié un article là-dessus. Vous pouvez aller lire sur le site de la presse. Et félicitations encore, Nico, pour ton poste à la presse. Tu as suivi les traces à TVA Sport. Après ça, tu as pu suivre mes traces pour aller au Nord Info. Mais je suis bien fier de toi. Je tiens à te le dire en ondes. Je suis très content pour toi. Merci de contribuer à propager la nouvelle sportive. Et puis, ça me fera absolument plaisir de te lire dans la presse. Et j'invite les gens à partager tes articles et à aller discuter. Nico, il répond vraiment beaucoup sur les médias sociaux. Il répond plus vite sur son Twitter qu'il répond sur son téléphone, je peux vous dire.
Moi, on est proche, plus je réponds vite. C'est ma devise.
Et Abraham, bon retour à Jonquière. Tu étudies en journalisme. Et puis, merci de ta participation. T'es pas un régulier, mais on va te trouver une place cette année. Là, peut-être des petites chroniques ici et là. Ça va me faire absolument plaisir. Hugues, je te laisse retourner à tes chaudrons.
Oui.
Papa du week-end.
Le petit gueuleton du samedi soir pour être prêt pour une belle nuit de tennis encore qui commence à 1h.
Alors, messieurs, merci infiniment. Et Nico, pourquoi pas un premier mot de la fin en 2022?
Je ne sais pas si il faudrait que je le change. On reste dans le classique. On va y aller dans le classique pour aujourd'hui. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Eber. Bon tennis, tout le monde.
Bye-bye.
Au Canada.